de Vues et Voix.
Au quotidien, avec Hélène Denis.
Le 4 novembre 2025. J'espère que vous allez bien. On est ensemble jusqu'à 11 heures. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Heureuse de vous retrouver.
Ben, moi aussi.
Ça s'est bien passé avec Denis Martin, Chabot hier.
Il avait la grosse voix.
Ah oui, il m'avait dit ça qu'il y avait une extinction. Il est rentré quand même.
C'était. On va s'en souvenir.
Ça frôlait le quoi, le Jerry Boulet ou...
Ouais, le Jerry Boulet et l'annonce de camion Ford.
L'annonce de camion Ford, ça, c'est la voix de Dan Bigras.
Je pense que c'était un Ram 150.
C'est Ram, en fait, c'est pas Ford. C'est ça,
ah oui, OK. Bon, alors, celui qu'on a entendu qui a une voix claire, c'est notre ami André Lacombe.
Bonjour.
André, vous êtes allé à Paris tout récemment.
À Paris, tout
chanceux.
Récemment, bien sûr, bien sûr. Du
pour une combienième fois?
Octobre. Je crois que c'était la cinquième fois que
la
je mettais les pieds
fois.
À Paris.
Oui, on se tente jamais. Hein?
Non, il y a toujours quelque chose à découvrir à Paris.
Ah oui, c'est
infini. On n'a jamais fini de faire
c'est
le
infini.
Tour.
C'est infini. Alors aujourd'hui, première de deux parties.
Première de deux, effectivement. C'est de vous faire découvrir mon intention de quelques activités et des quartiers aussi moins connus de Paris.
Ah, bien pourquoi pas, on aime bien.
Après cinq fois, à un moment donné, on a envie de découvrir d'autres choses.
Oui.
Puis quelques bonnes adresses, bien sûr, au travers de tout ça.
Donc, vous ne parlerez pas de la Tour Eiffel aujourd'hui?
Non.
Non, mais vous l'avez vue?
Oui, bien sûr.
Merci, André. À tout à l'heure. Et puis, qu'est-ce qu'on aura aussi au menu? La chronique de Michel Poitevin, qui nous parlera, bien sûr, du budget fédéral qui est déposé aujourd'hui à partir de 16 heures. À quoi peut-on s'attendre? Ce sera le sujet à la chronique économie d'aujourd'hui. Et puis, j'ai bien hâte de rencontrer Thomas Sabourin, auteur et urgentologue, qui est aussi écrivain. Il va nous proposer son deuxième roman, le roman intitulé « Le chant des icebergs ». On va avoir aussi l'occasion d'entendre « Le chant des icebergs ». Et c'est complètement fascinant, comme dirait l'autre, d'entendre ces sons parce qu'on compare le chant des icebergs au chant des baleines. Et c'est vrai. Alors, à suivre un petit peu plus tard au cours de cette émission. Et pour commencer, voici la voix de Bobby Basini.
Élégante solitude, une chanson de Bobby Bazzini.
Élégante chanson également. À la une du Devoir d'aujourd'hui, les médecins québécois gagnent entre 39 % et 48 % de plus qu'en Ontario. Les nouvelles données mettent encore plus sans doute un éventuel exode vers d'autres provinces, écrit Éric Desrosiers. Divers et compliqués, les modes de rémunération et les autres sources de revenus des médecins peuvent rapidement prêter à toutes sortes de débats et d'interprétations. Parlez-en à Pierre-Carl Michaud, professeur à HEC Montréal et titulaire de la chaire de recherche Jacques Parizeau en politique économique. Une étude sur la rémunération clinique totale des médecins qu'il avait réalisée ce printemps avec quatre autres chercheurs de la chaire concluait que la rémunération annuelle moyenne des omnipraticiens avait été de 414 000 $ en 2023, soit la plus élevée au Canada, une fois prises en compte les différences de coûts de la vie entre les provinces, et de 548 000 $ pour les spécialistes, c'est-à-dire dans la moyenne canadienne et plus qu'en Ontario. Cette étude s'était attirée des critiques, notamment auprès de la part des médecins qui lui avaient reproché de ne pas tenir compte des activités médicales non rémunérées, comme la recherche, l'enseignement et les tâches administratives. Toujours à la une du Devoir, élections municipales, Montréal d'abord relancé les négociations à la STM. Nous voyons en photo la mairesse désignée de Montréal qui a fait son entrée à l'Hôtel de Ville de la Métropole lundi en fin de matinée, en plus de mettre la pression sur la société de transport pour mettre fin à la grève. Soraya Martinez-Ferrada s'engage aussi à ne pas sortir les marteaux-piqueurs contre les pistes cyclables. Soraya Martinez-Ferrada a eu droit lundi à un privilège auquel elle n'avait pas eu accès depuis son couronnement à la tête d'Ensemble Montréal en février dernier, celui de rencontrer la haute direction de la machine municipale dans les locaux officiels de l'Hôtel de Ville réservés aux seuls élus. La nouvelle mairesse et sa garde rapprochée ont pris leurs aises dans le chic bâtiment patrimonial fraîchement rénové au lendemain de leur triomphe électoral de dimanche. La première mairesse issue de l'immigration de la métropole a aussi rencontré les médias pour confirmer sa première priorité, ici entre guillemets, relancer les négociations à la Société de transport de Montréal dans l'espoir de suspendre la grève des employés d'entretien qui risque de perturber les déplacements de centaines de milliers de Montréalais durant tout le mois de novembre. Le service est limité aux heures de pointe du matin, de la fin d'après-midi et de la fin de soirée. Mme Martinez-Ferrada compte aussi mettre en marche son groupe tactique sur l'itinérance pour s'assurer que la dizaine de sans-abri qui vivent dans des tentes passent l'hiver sans y laisser leur peau. À la une du Journal de Montréal, une médecin dermatologie, 108 000 patients sur les listes d'attente, je travaille déjà 60 heures semaine, je ne suis physiquement pas capable d'en faire plus. Avec plus de 108 000 Québécois qui s'accumulent sur leur liste d'attente, les dermatologues de la province dénoncent la loi imposée par le gouvernement et craignent de ne plus être capables de voir des patients dans leur clinique au public. Et on revient sur les élections municipales 2025. On est redescendu sur terre des chroniques de Richard Martineau. Ici, c'est le titre de sa chronique qu'on trouve en page 6. Montréal redescend enfin sur terre. Grosse commande pour Martinez, Ferrada, José Legault. Essoufflement du dogmatisme, c'est Joseph Facal. Retour au jeu politique de base, Emmanuel Latraverse. Mauvaise nouvelle pour la CAQ, Antoine Robitaille. Et parlons du tramway, chronique de Marie-Ève Doyon. À la une maintenant de la presse plus d'aujourd'hui, on parle d'un cimetière en Montérégie, un monument des Hells au cimetière à Saint-Basile-le-Grand. Une section du club de motards a obtenu la permission d'ériger une pierre tombale arborant le logo du groupe criminel, mais la communauté n'a pas dit son dernier mot. C'est à lire dans la presse sous la plume de Vincent Larouche. La hiérarchie de l'Église a autorisé l'érection d'un monument très peu catholique en l'honneur des Hells Angels au cimetière de Saint-Basile-le-Grand, malgré l'opposition de fidèles qui refusaient cet honneur à l'organisation criminelle, a appris la presse. Depuis l'apparition de l'imposante stèle des motards la semaine dernière, le diable est aux vaches dans le diocèse. Le monument est impossible à manquer. avant même de franchir le portail de fer du cimetière montérégien qui entoure l'église patrimoniale achevée en 1876. Une grosse tête de mort ailée, flanquée de l'inscription « Hells Angel MC South », en référence à la section du club de motards qui contrôle le trafic de drogue dans un vaste territoire en Montérégie. La colle est encore fraîche sur le monument. Deux attaches de plastique temporaires maintiennent en place ces différents morceaux. Ça n'a pas d'allure, laisse tomber une source paroissiale qui s'est exprimée sous le couvert de l'anonymat par crainte de représailles et de l'intimidation renchérie. Une deuxième source locale qui a demandé à taire son nom pour les mêmes raisons. Selon nos informations, des gens ont même menacé de quitter leur poste en raison de leur désaccord. La presse n'a pas été en mesure de confirmer s'ils avaient mis cette menace à exécution. Selon nos sources, la recommandation d'accepter le monument a été formulée à un niveau de la hiérarchie diocésienne plus élevé que celui du curé de la paroisse, Frédéric Bacala. Ce dernier n'était pas disponible lundi pour commenter le sujet. Plusieurs intervenants à l'interne auraient manifesté leur désaccord. Il y a également le ministre de la Sécurité publique, Yann Lafrenière, qui était aussi choqué lorsque la presse l'a informé de l'affaire. Il se réjouit toutefois de voir que des citoyens ont fait part de leur désaccord. De voir un tel monument, je trouve cela déplacé. Cependant, ce qui me rassure, c'est de voir la réaction de la communauté, a-t-il déclaré.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est ranimé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
Ah. Ah, Jacques Dutronc, il est 5 heures, Paris s'éveille.
Oui, et comme André disait, cette chanson est un film. Et je voulais aussi vous parler de la une de la presse plus. À part là, ce monument des Hells au cimetière, on voit juste à côté Michel Tremblay, une entrevue passionnante menée par José Lapointe avec Michel Tremblay qui parle de son plus récent livre, Paris en vrac, qui relate ses aventures parisiennes pendant les années 70 et 80. C'est un livre rempli d'anecdotes truculentes. Le nouveau livre de Michel Tremblay qui sera présenté, notamment au Salon du livre. Michel Tremblay sera présent. Ce sera sa 48e présence au Salon du livre cette année.
Un record, c'est admirable.
Oui, ouais. Complètement.
Tout à fait.
Alors, on reste dans la vie parisienne avec vous, oui. André. Vous nous présentez un premier quartier moins connu de Paris.
Oui, le 17e arrondissement. Ça, c'est entre Montmartre à l'est, le quartier de l'Arc de Triomphe à l'ouest et le boulevard périphérique au nord. Ça vous situe un peu, surtout si vous connaissez assez bien Paris. C'est entre autres dans cet arrondissement-là où l'on trouve le charmant Parc Monceau, qui est ouvert au public depuis 1852, qui est le titre d'une chanson d'Yves Duteil aussi, je pense, le Parc Monceau. Alors, il n'y a rien de spectaculaire là, dans ce quartier-là. Ce n'est pas le quartier de la Tour Eiffel ni de l'Arc de Triomphe. On est un peu en dehors des circuits touristiques. On est dans le Paris des Parisiens, je dirais. Puis c'est ça qui fait son charme. Hein? C'est un quartier résidentiel où on trouve plusieurs rues bordées de boutiques, de commerces alimentaires, de restaurants. Je pense entre autres à la rue de Lévis, à la rue Poncelet, à la rue Legendre et j'en passe. Alors c'est bon tout simplement de s'y promener, d'y flâner.
Marcher
pas plus compliqué
à Paris,
que ça, marcher.
C'est un plaisir.
C'est l'atmosphère, c'est le feeling général. C'est très intéressant, très agréable. C'est bon d'y résider aussi. Et à ce sujet, moi, je vous recommande un appart-hôtel, parce que j'ai demeuré dans ce quartier-là. Appart-hôtel, la formule chambre avec cuisinette. C'est très pratique, ça, pour les petits déjeuners du matin. Quand un café, un croissant, ça peut coûter de pas loin de 20 euros des fois, là.
Ouais.
Alors, ça permet de réduire la facture.
C'est un bon choix.
Je parle du réside hôtel impérial Rennequin. Rennequin, c'est le nom de la rue. Et donc, réside hôtel impérial Rennequin, petit hôtel de 15 nuitées, de bonne taille, propre, bien équipé, sur une rue tranquille.
De 15 nuitées à unités.
15 unités.
Ouais.
Mon Dieu,
ouais.
Je fais de la dyslexie ce matin. C'est vrai. Avec unité,
vous pouvez
faire nuitée.
Est-ce que vous êtes resté là 15 jours?
Non, je suis resté là 5 nuits.
5 nuitées.
Quel lapsus. 15 unités. Donc, petit hôtel, tout à fait charmant. Et si vous voulez y prendre le petit déjeuner en passant, vous pouvez. Là, ils le servent. Mais, bon,
ah, c'est merveilleux,
à tous les goûts.
Ça.
Des prix plutôt raisonnables, considérant qu'on est à Paris, évidemment. Il n'y a rien de franchement raisonnable à Paris. 235 euros la nuit, toutes taxes comprises. Donc, c'est très bien pour des unités quand même assez spacieuses.
235 euros, c'est combien en argent canadien?
Il faut faire quasiment 1,7. Hein?
OK. Je pense que Mathieu est en train de calculer.
Quasiment. Alors, c'est légèrement au-dessus de 300 ou autour de 300 $ la nuit. C'est pas dans les moins chers, mais je vous dirais que pour ce que vous avez, c'est très bien.
Puis au bout du compte, on économise étant donné qu'on ne sort pas pour aller petit déjeuner.
Petit déjeuner, mais aussi, vous pouvez prendre votre repas du soir là, si vous voulez aussi. Il y a quand même un équipement.
Ouais. Petit déjeuner, dîner.
Si vous voulez.
Oui,
oui,
on fait
si
ce qu'on
voulez.
Veut. Oui,
voilà.
Mathieu?
Pour 238 $ vous avez dit?
235 euros.
235 euros, c'est autour de 385 $.
Tant que ça.
En ce moment, avec le taux de change.
Avec le taux de change, OK. Okay. Je vais regarder ma facture de carte de crédit comme il faut en rentrant. Mais alors voilà. Et c'est aussi un quartier où l'on peut trouver des restos pour tous les goûts, tous les budgets. Et je pense entre autres au restaurant japonais Tomiki sur la rue Legendre où on a mangé un midi.
Tomiki?
T-O-M-I-K-I. Délicieux et abordable.
Un japonais à Paris.
Vous donnez une idée, un japonais à Paris. Soupe miso, ravioli japonais frits, salade, maki. 28 euros pour deux personnes.
Ah, ben là, c'est une bonne affaire.
Très raisonnable, ça.
Une aubaine.
Oui, et c'était délicieux. Tout petit, seulement quelques tables. Il y a beaucoup de locaux qui viennent chercher leur repas du midi, là. Donc, ça grouille de vie.
Est-ce qu'on vous l'avait suggéré ou vous l'avez trouvé comme
par hasard? Je l'ai trouvé tout seul comme un grand garçon.
Comme un grand garçon.
Et vraiment, je le recommande. Et dans un autre registre, si vous aimez le canard sous toutes ses formes, manquez pas le restaurant Il était une oie dans le sud-ouest.
Oh, c'est donc charmant.
C'est charmant comme
nom.
Il
était une fois dans l'ouest.
Oui,
c'est un beau clin d'œil.
Oui. Et non un canard dans le sud-ouest, mais une oie, mais bien qu'on ne sert pas d'oie. Alors, c'est chaleureux, accueillant, excellente cuisine. évidemment, des prix un peu plus élevés. Là. C'est du canard, après tout. Mais ce n'est pas exagéré compte tenu de la qualité. Alors, pour vous donner une idée, le confit, l'assiette de confit est à 25 euros, alors que l'assiette de magret est à 29 euros. Et l'assiette de foie gras que vous pouvez partager en entrée, entre 20 et 30 euros, selon la variété. Parce qu'il y a plusieurs variétés de foie gras, mais ça fait une belle entrée à partager. Mmh,
vous êtes régalé donc à Il était une oie dans
le sud-ouest. Et c'était à 2 minutes de l'hôtel. Oui.
Ah oui, pas loin.
2 minutes de l'hôtel.
Autre quartier. Alors, André, oui, on s'en va ailleurs. Un autre quartier souvent ignoré par les guides touristiques.
Oui, oui. Et je parle ici du quartier des affaires de La Défense, tout juste au nord du boulevard périphérique, dans l'axe de la grande avenue Charles de Gaulle et de l'Arc de Triomphe. Souvent, au bout de ce quartier-là, on se dit « Ah, c'est des gratte-ciels, c'est comme chez nous. »
Oui, il n'y a rien à voir d'intéressant là.
Et allez-y, parce que c'est très différent, justement, d'un centre-ville nord-américain.
Ça vaut le détour?
Oui, unique, je dirais presque spectaculaire. Ce qui surprend, entre autres, c'est son ampleur. C'est le deuxième quartier d'affaires le plus attractif en Europe, après The City à Londres.
Ah,
donc,
oui.
C'est vaste. C'est vaste et il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui sont hébergées là. Et La Défense, ce n'est pas juste des bureaux, hein. C'est 25 000 habitants, 25 000 personnes qui y habitent. Il y a aussi des hôtels, des restaurants, des boutiques, bien sûr. Mais d'abord et avant tout, c'est ça qui le rend intéressant, je pense, c'est un laboratoire à ciel ouvert pour l'architecture et l'aménagement.
Dans quel arrondissement, là?
Bonne question. On est extramuros, hein? Donc ce n'est pas considéré comme un arrondissement en tant que tel.
D'accord.
Je pense que c'est Neuilly. En fait, c'est pas Paris comme tel. La municipalité, c'est Neuilly.
Okay.
Je ne veux pas dire de bêtises, là, mais c'est tout juste à l'extérieur des murs. C'est depuis le début des années 60 donc, que ce quartier-là a vu le jour. Puis, il y a plusieurs générations de tours et de bâtiments qui s'y sont succédés. Ça donne un véritable condensé de l'architecture des dernières décennies. C'est comme si chaque construction repoussait un peu plus loin les limites de la précédente. Alors, si vous êtes amateur d'architecture, vous allez vraiment adorer. Puis le symbole par excellence de tout ça, c'est la Grande Arche de la Défense. C'est un immeuble qui est ouvert depuis 1989, qui est haut de 35 étages, de forme, c'est un arche carré, je dirais, et son intérieur forme une vaste esplanade si grande qu'elle pourrait accueillir Notre-Dame de Paris. Ça vous donne une idée de l'ampleur de ça. Dans son ensemble, le quartier s'étend sur une vaste dalle piétonne où on retrouve à la fois des jardins suspendus, des bassins, une soixantaine d'œuvres d'art contemporains. Alors, c'est comme un musée à ciel ouvert où on flâne, où on se promène. Et de son point de départ au sud jusqu'au point culminant au nord où se situe la Grande Arche, nous, on a fait ça en à peu près 2 heures sans se presser. Là. C'est une montée douce qui nous permet d'avoir des vues sur les environs à quelques endroits, principalement sur l'axe de la Grande Avenue Charles de Gaulle et de l'Arc de Triomphe qui est en contrebas. Alors, c'est spectaculaire. Ça a été bien pensé. Moi, c'est un coup de cœur. Je pensais pas nécessairement aimer ça. J'y allais sans trop d'attente, en fait. Et j'ai vraiment aimé.
Quand on n'a pas d'attente.
Oui. Et le nom La Défense, en terminant, ça provient d'une sculpture en bronze de l'artiste Louis-Ernest Barrias, œuvre qui se nomme La Défense de Paris et qui rend hommage aux soldats qui ont défendu Paris durant la guerre franco-allemande de 1870. Et on peut l'admirer sur place, cette sculpture.
Vous avez évoqué Notre-Dame de Paris. Quelques mots donc sur Notre-Dame de Paris, qui est de nouveau accessible au public depuis décembre dernier.
Oui, après son terrible incendie, comme plusieurs le savent déjà, les Français ont réussi le tour de force de la reconstruire et de la restaurer à l'identique. C'est vraiment un tour de force. Heureusement pour eux, les dégâts se sont surtout limités au toit, mais tout a été restauré et la cathédrale brille maintenant comme un sou neuf, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il y a encore des travaux en cours à l'extérieur sur la partie arrière, mais ça ne dérange rien présentement, c'est un peu caché. C'est toujours possible de la visiter gratuitement, mais armez-vous de patience. La file d'attente peut être très longue, un peu moins pire en début d'avant-midi, mais quand même.
Quand vous dites longue, on attend.
Ça peut aller jusqu'à 2 heures.
2 heures d'attente? Ouais,
ça peut aller jusqu'à 2 heures d'attente. Il y a toujours une possibilité de réserver des billets coupe-fil en ligne, mais ça s'envole en quelques minutes et c'est mis en ligne vers 5-6 heures du matin, heure du Québec. Alors, si vous voulez vous lever très tôt, c'est toujours possible.
Quand le Québec s'éveille.
Et pour notre part, on a acheté des billets pour un tour guidé d'1h45 et on ne l'a pas regretté. On était avec la compagnie des guides. Il y a plusieurs compagnies qui offrent ça. la Compagnie des guides. Alors, pour 35 euros par personne, on a eu droit à un rappel historique sur la construction de la cathédrale, sur l'élaboration des œuvres d'art qui sont dans la cathédrale, et en plus d'avoir quelques détails sur le combat contre l'incendie et la reconstruction. Il y avait 600 pompiers actifs, hein, pour éteindre l'incendie.
Oui.
C'était quelque chose.
Considérable, énorme même. Et vous n'avez pas été déçu?
Non, au contraire. Au contraire, je recommande ça à tout le monde. C'est à voir. Vraiment.
Est-ce que vous êtes sorti de votre visite en chantant « Il est venu le temps des cathédrales
» J'y ai pensé, mais je ne l'ai pas chanté.
En terminant, André, une ressource pour les personnes en situation de handicap qui désirent préparer un voyage à Paris?
Alors, pour ceux qui ont déjà visité la ville, Paris manque pas de défis, hein, pour les personnes en situation de handicap, avec les rues étroites, achalandées, les pavés, les couloirs de métro où c'est un escalier après l'autre. Alors, c'est précieux de pouvoir compter sur un ouvrage de référence qui va pouvoir vous guider. Et je parle du site de l'Office de tourisme de Paris qui se nomme « Paris, je t'aime ». Et dans ce site, vous pouvez accéder à une section où vous aurez des informations. Alors, parisjetaime.com, en un seul mot, section « Préparer votre séjour », sous-section « Paris, handicap ». Et vous y trouverez des conseils, des adresses pour des activités, des hôtels, des restaurants. Vraiment bien fait.
Super. parisjetaime.com. Et on va poursuivre dans 2 semaines?
Oui.
Avec la suite?
La suite. J'ai pas tout dit ce matin.
Non. vous pourriez faire des chroniques sur Paris.
À l'année. Mais
à
quand
longueur
même.
D'année. Merci beaucoup, André. À la prochaine.
À la prochaine.
Cet air qui nous fait penser à Paris, hein, dans le profond Paris, si je peux dire. Bien, je vous invite à rester avec nous puisque la chronique économie s'en vient avec Michel Poitvin.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Magnolia, Magnolia, je ne sais plus qui croire. Au bout de mon histoire, je serai où, je serai quoi? Je te regarde fleurir d'avril en avril. Moi, je ne tiens qu'un fil, Magnolia, Magnolia. Serais-je un oiseau ou un arbre comme toi? Ou un rien pantoute flottant dans l'au-delà, verrais-je défiler comme au cinéma toutes les scènes de ma vie? Magnolia, 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 j'ai déjà cru en Dieu. Je me revois garçon, la foi dans les yeux. Dans ma soutane blanche, j'agitais l'encensoir, sûr que les filles du dimanche seraient là pour me voir. J'apprivoisais les anges, je faisais de l'œil aux démons. Petit soldat étrange en guerre de religion. Aujourd'hui les églises sont à vendre. Peux-tu croire que je me cherche un mystère? Magnolia, Magnolia, serais-je un oiseau ou un arbre Magnolia, Magnolia, t'as pas l'air de t'en faire. Mais l'univers recule à chaque année lumière. Et je me sens ridicule, particule de poussière, sous la simple beauté de tes fleurs passagères. Je ne sais plus qui croire, la science, la poésie. Au bout de mon histoire, ce sera le jour ou la nuit. Si par hasard je croise l'auteur de tout ça, est-elle une femme? Se souvient-elle de moi? Qui te regardait fleurir? Magnolia, Magnolia. Ou un arbre comme toi. Ou un rien pantoute flottant dans l'au-delà.
Michel Rivard, Magnolia, Magnolia. Voyons.
Oui, mais vous dites Magnolia, mais lui, il dit Magnolia.
Oui, en fait, j'étais mélangeante entre les deux.
Oui, mais ça arrive à tous et à toutes. C'est une chanson nouvelle, relativement nouvelle, qui fait partie de son plus récent album, Après, on va où? Grande question. Michel Poitevin, bonjour.
Bonjour.
Michel, c'est à votre tour. Je ne sais pas si vous allez nous parler d'amour, mais surtout d'argent, parce que ces jours de budget, le gouvernement fédéral va présenter son budget cet après-midi. À quoi on peut s'attendre?
Oui, c'est ça. On peut aussi poser la question, on va où?
Oui, oui.
Avec le budget. Donc, à 16 heures, le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, va présenter son budget. Peut-être avant de rentrer dans les détails, là, il y a une innovation dans la présentation du budget cette année.
Ah oui?
Qui mérite d'être soulignée. Avant, les gouvernements, plus ou moins, à chaque fois qu'ils dépensaient, ils mettaient tout ça dans un bocal qui était les dépenses, que ce soit des dépenses d'investissement ou des dépenses courantes. M. Carney a eu l'idée de séparer les deux. Donc, on aurait les dépenses courantes d'un côté, puis de l'autre côté, les dépenses d'investissement. Les dépenses courantes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le salaire aux employés, des transferts à la population, par exemple, à la sécurité de vieillesse ou l'allocation canadienne pour enfants. Alors que des investissements, c'est plus des choses pour le long terme. On peut penser à des infrastructures de transport, en santé, des hôpitaux, des écoles, et même des crédits d'impôt à l'investissement pour les entreprises ou des subventions à l'investissement pour les entreprises seraient vus comme des investissements parce que ça augmente le capital du Canada, donc notre capacité de produire dans le futur. Donc, pourquoi on fait ça? Bien, on s'attend à un déficit élevé. Alors, si on regarde le déficit seulement sur les dépenses courantes, probablement qu'il va être pas mal plus petit. Mais c'est pas si fou de penser ça. Pensons à nous-mêmes, nos finances personnelles. On est moins gêné d'emprunter pour, par exemple, acheter une nouvelle voiture ou une maison ou une rallonge sur son logement ou quelque chose du genre, alors qu'on est plus mal à l'aise d'emprunter pour payer la facture d'épicerie à chaque semaine. Alors, c'est un petit peu dans cet esprit-là qu'on dit, ben si on a beaucoup de dépenses d'infrastructure, ben ça peut justifier la dette parce que ces dépenses d'infrastructure vont nous rapporter dans le long terme. Donc, répartir le coût sur le long terme avec un emprunt, c'est pas une mauvaise idée. Peut-être le petit danger, ça va être dans les zones grises. Qu'est-ce qui va être classé? Il y a des choses, c'est clair, c'est une dépense d'investissement. Il y en a d'autres, c'est clair, c'est une dépense courante. Mais entre les deux, par exemple, une subvention, par exemple, un programme de subvention aux véhicules électriques. Est-ce que c'est une dépense courante ou un investissement dans l'environnement? un programme de formation de la main-d'œuvre. Probablement qu'on va mettre ça comme un investissement parce que ça améliore la formation des travailleurs. Donc, ça va être à suivre, voir comment ça va être présenté. Là. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont commenter là-dessus dès ce soir ou demain.
Est-ce qu'on a un petit peu d'informations sur les nouveaux programmes?
Oui, en général, on aime garder secret, mais depuis, je dirais, plusieurs budgets, on a l'impression que le gouvernement laisse couler un peu d'informations. Ouais. Donc,
il y a des fuites, mais c'est voulu.
Exactement. On a l'impression que c'est voulu. Donc, les priorités, ça semblerait être les infrastructures, la défense et le logement. Puis au niveau de la défense et le logement, bien déjà ça... Carney lui-même en avait parlé cet été. Il y a également tout ce climat de commerce international, de tarifs et tout. M. Carney a mentionné souvent qu'il fallait trouver de nouveaux partenaires commerciaux, de nouvelles chaînes d'approvisionnement. Donc ça, c'est un peu les priorités. Alors, comment on va y répondre, là? Puis on n'a pas tout l'ensemble du budget, évidemment, mais on s'attend à une création d'un fonds de 50 milliards pour les infrastructures. Puis là-dessus, il y en aurait 5 milliards pour des infrastructures en santé, par exemple, des hôpitaux. En santé, notamment, on sait que si le gouvernement finance un projet, il s'attend à ce qu'il y ait une contrepartie égale du gouvernement provincial, ce qui veut dire que ce 5 milliards pour santé deviendrait 10 milliards en calculant, en incluant la contribution provinciale. Il a annoncé cet été une forte hausse des dépenses au niveau de la défense. On passerait de 40 milliards à 49 milliards, qui est une hausse significative. Mais en même temps, je pense qu'il y a eu une procrastination. On est dans l'OTAN, puis ça fait longtemps que les règlements de l'OTAN disent qu'on doit mettre 2% de notre PIB dans la défense. Puis le Canada a été un procrastinant notable. Donc, je pense qu'on a du rattrapage à faire de ce côté-là. Donc, on va payer dans les prochaines années pour peut-être le laxisme des gouvernements précédents. Également annoncé cet été 13 milliards pour le logement abordable. Il faudra voir les détails, là, mais le logement, c'est une des priorités du gouvernement. Peut-être ce qu'on a moins parlé, là, mais 1 milliard pour attirer des talents des États-Unis. Là, avec les politiques d'immigration aux États-Unis, il y en a beaucoup. On a entendu parler qu'il y a des chercheurs dans les universités qui cherchaient à quitter les États-Unis, soit pour l'Europe, l'Australie ou le Canada, mais le gouvernement veut mettre 1 milliard pour tenter d'attirer ces talents-là ici s'ils ne veulent plus rester aux États-Unis. Puis finalement, pour les tarifs, on va avoir au moins 6 milliards là, pour une réponse stratégique aux tarifs, dont 1,2 milliard pour le bois d'œuvre. Puis ça avait été annoncé également cet été.
Alors, on comprend pourquoi le ministre des Finances et du Revenu national, François-Philippe Champagne, a fabriqué ses propres chaussures au lieu d'en acheter des neuves. Bien, il les a fabriquées. Alors, elles sont neuves, là, mais c'est lui qui les a faites. Donc, il a économisé là-dessus. Mais je fais quand même une petite blague, là, parce que ça va nous coûter cher.
Oui, c'est ça. Ben, juste sur la petite blague, ça fait quelques années souvent que les ministres des Finances essaient de faire des blagues. Justement, traditionnellement, le ministre des Finances allait s'acheter une nouvelle paire de chaussures. Je sais que le ministre Girard, à Québec, à un moment donné, avait porté des espadrilles.
Ouais.
Donc, puis là, ben, M. Champagne innove à sa façon.
Il a dit un geste en guise de clin d'œil au slogan électoral des libéraux, « Bâtir un Canada plus fort ». Il s'est rendu à l'usine de bottes Boulet à Saint-Tite, en Mauricie, qui est réputée pour ses bottes de cow-boy.
Et,
qui fabrique aussi des chaussures pour la Gendarmerie royale du Canada. Et il a dit, M. Champagne, que ce sont des bottes qui ont contribué à la sécurité du pays. C'est dans l'esprit du budget quand on dit qu'on veut bâtir, qu'on veut protéger. Ce qu'il a expliqué aux journalistes qui étaient présents. Là. Il a fait des bottes en cuir noir flambant neuves.
Flambant neuves. Bon, ben c'est ça. Quand il parle de bâtir le pays, là, je disais, les priorités, c'est l'infrastructure. L'infrastructure, le logement. Donc, c'est vraiment, je pense, le focus du budget, c'est vraiment tourné vers l'avenir. Mais vous me demandiez, est-ce que ça va coûter cher? Des gens s'attendent à ce que le déficit soit quelque part entre 70 et 100 milliards, alors qu'il a été, si je me souviens bien, autour de la COVID, c'est plus 40 à 50 milliards. Donc, ça va être énorme. Mais encore une fois, avec la comptabilité, je ne veux pas dire créative, moi, je pense que c'est plus une comptabilité qui va refléter la réalité, qu'un investissement, ça ne devrait pas apparaître dans le même total qu'une dépense courante. Mais avec ça, on va plus savoir, je pense, où on s'en va. Ce déficit-là, on va tenter quand même de le limiter. On s'attend à ce qu'il y ait une rationalisation assez austère, je dirais, de la fonction publique fédérale. Le ministre Champagne a demandé à ses ministres de couper 15 % dans leur budget sur 3 ans pour une économie attendue de 30 milliards. Sous le règne Trudeau, là, d'une dizaine d'années, le nombre d'employés a augmenté de 30 % dans la fonction publique fédérale. Ça représente un coût, le coût de main-d'œuvre de ces employés, 71 milliards, qui est le plus gros poste budgétaire. Donc, c'est sûr que si on veut couper en quelque part, on n'aura pas le choix de toucher à la main-d'œuvre, c'est le plus gros poste budgétaire. Donc, on peut pas juste dire si on y touche pas, puis on va couper ailleurs. Ça arrivera pas. Mais l'économie canadienne a des problèmes structurels. On a la guerre tarifaire, on a des partenaires commerciaux, notamment les États-Unis, qui semblent vouloir nous faire faux bond.
Bien oui, même si M. Carney s'est excusé de ce qu'a fait Douglas, le ministre ontarien, Donald Trump, répond absent.
Oui, non, exactement. Depuis ça, puis ça, ça n'est pas de juste de l'air Trudeau, mais depuis des décennies, on a l'impression qu'on a un déficit d'investissement privé au niveau de nos entreprises. On a des infrastructures vieillissantes. Donc, je pense que M. Carney a décidé de commencer à s'attaquer à ces problèmes-là. Ce ne sera pas facile, mais je pense qu'il faut y aller si on veut vraiment que l'économie canadienne soit forte, parce que si on demeure faible, on a un voisin qui ne demande pas mieux d'empiéter chez nous.
Tout à fait. J'ai appelé le ministre ontarien Douglas, c'est Doug Ford. Alors, à 16h, vous allez être au rendez-vous?
Oui, c'est ça. Puis peut-être juste mentionner au niveau politique, on a parlé d'économie, mais il faut se rappeler que le gouvernement de M. Carney est minoritaire. Donc, est-ce que je suis sûr qu'il y a déjà des tractions entre les différents partis, mais là, ça prend au moins un des partis du Bloc québécois, le NPD, ou les conservateurs, de se rallier au gouvernement pour voter, sinon le budget pourrait être défait, puis ça pourrait éventuellement nous mener à de nouvelles élections, puis je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui veulent ça.
Non, certainement pas. Merci beaucoup, parce que ça coûte cher, ça aussi.
Oui.
À la prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir.
La chanson Vestige de Caroline Savoie.
Les environnements sans parfum ne sont pas frivoles. C'est dans la section dialogue de la presse d'aujourd'hui. Rosa Yanoko qui signe le texte. Elle est administratrice à l'Association pour la santé environnementale du Canada, la SEC, A-S-E-C. L'Association pour la santé environnementale du Canada réplique à la chronique « Avez-vous pensé à votre charge odorante aujourd'hui » de Patrick Lagacé, publiée le 7 septembre dernier. Pour Rosa Yanoko, les environnements sans odeur sont essentiels car ils protègent les personnes en situation de handicap. Lorsque le chroniqueur Patrick Lagacé a réagi à l'affichage demandant d'éviter les produits parfumés dans les bureaux de Service Canada, il a présenté cette politique comme excessive et absurde. Il a soutenu que pour accommoder seulement 3 % de la population, le gouvernement fédéral préférerait que vous sentiez la sueur plutôt que le parfum artificiel du déodorant. Il a qualifié cette mesure d'hypersensibilité culturelle et a suggéré que 97 % des gens renoncent aux produits de base, en bref, être dégueu. Il a même proposé que les personnes hypersensibles portent des masques N95 ou que les Canadiens soient forcés de prendre une douche avant d'entrer dans un bureau des passeports. Ces propos banalisent une déficience reconnue, la sensibilité chimique multiple, qu'on appelle aussi la SCM, et alimente la stigmatisation qui met en danger la santé et la sécurité des personnes concernées. Je le sais d'expérience, je vis avec la SCM depuis 2007, après avoir été exposée à plusieurs reprises à des produits chimiques au travail. Comme on m'a refusé des mesures d'accommodement, ma santé s'est progressivement détériorée. Je ne pouvais plus travailler, faire mes courses, ni voir ma famille, et j'ai passé 2 ans isolée. Lorsque je suis exposée à des parfums ou produits chimiques, je développe rapidement des douleurs à la tête et aux yeux, je perds la voix, j'ai du mal à parler, je souffre de confusion, de troubles de l'équilibre et de douleurs à l'estomac. Je deviens incapable de fonctionner et dois quitter les lieux immédiatement. La SCM n'est pas une préférence personnelle. C'est un handicap reconnu et protégé comme tout autre handicap en vertu de la loi canadienne sur les droits de la personne, la loi canadienne sur l'accessibilité et la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. La Commission canadienne des droits de la personne le confirme sur son site Web. Le comité de l'ONU sur les droits des personnes handicapées, dans ses observations finales de 2025, a rappelé que les personnes atteintes de SCM ont droit à une protection égale, à des mesures d'accommodement et à des environnements accessibles. En juin 2025, l'Association médicale américaine a adopté une politique reconnaissant la SCM comme pouvant limiter les activités majeures de la vie et appuyant les politiques sans parfum et l'étiquetage des ingrédients. J'essaie de mener une vie normale, mais je suis constamment confrontée à des expositions et à des obstacles. J'évite les lieux publics comme les cinémas, les conférences et les fêtes. Cela touche aussi mon conjoint. Nos sorties en vacances sont souvent gâchées. Même mes rendez-vous à l'hôpital sont difficiles car je dois affronter le personnel et le savon parfumé dans les toilettes. À la maison, je réagis aux produits de lessive et à la fumée de cigarettes de mes voisins. Mon corps est épuisé par ces agressions chimiques quotidiennes. La SCM se développe par sensibilisation. Des expositions répétées rendent le corps de plus en plus réactif. Des produits courants, parfums, assainisseurs d'air, crèmes parfumées, produits de nettoyage peuvent déclencher des symptômes invalidants dans tous les systèmes du corps. Plus d'un million de Canadiens ont reçu un diagnostic de SCM et ce nombre augmente. Patrick Lagacé a parlé de seulement 3 % mais cela exclut des millions d'autres personnes asthmatiques, atteintes d'allergies graves, de dermatites, de migraines et d'autres conditions qui dépendent, elles aussi, d'un air sain. Je suis reconnaissante pour les rares lieux où des produits non parfumés sont utilisés, où je peux respirer et vivre sans être malade. Je suis membre de l'Association pour la santé environnementale du Québec et du Canada depuis de nombreuses années, et je parle au nom de celles et ceux qui souffrent encore davantage et sont forcés de vivre isolés. J'espère que de plus en plus de personnes et d'entreprises reconnaîtront les effets nocifs des produits chimiques du quotidien. Les mesures d'accommodement, comme les politiques sans parfum, ne visent pas à restreindre les choix. Elles garantissent que tout le monde puisse accéder aux lieux publics en toute sécurité et avec dignité. Sans parfum ne signifie pas que les gens sentiront mauvais. Des millions de Canadiens utilisent chaque jour des produits personnels non parfumés et ils ne sentent rien. Se moquer de ces mesures revient à se moquer d'un fauteuil roulant, d'une rampe, d'une canne ou d'un chien guide. Cela envoie le message que notre sécurité importe moins et incite d'autres à ignorer les règles d'accessibilité, créant un danger réel. Grâce à l'Association pour la santé environnementale du Québec et à la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, un certain soutien existe pour les personnes atteintes de sensibilité chimique multiple. Mais les services demeurent rares, surtout au Québec. Ridiculiser la sensibilité chimique multiple revient à mépriser non seulement une mesure d'accessibilité, mais aussi les personnes qui en dépendent pour respirer, travailler et vivre. C'est donc dans la section dialogue, réplique de Rosa Yanoko, les environnements sans parfum ne sont pas frivoles, réplique à la chronique de Patrick Lagacé qui a été publiée, je vous le rappelle, le 7 septembre dernier, intitulée « Avez-vous pensé à votre charge odorante aujourd'hui? » Pour la cinquième saison consécutive, Danse Danse, en collaboration avec Danse Cité, poursuit son engagement en faveur de l'accessibilité avec le programme d'audio-description. Ce programme permettra cette année aux personnes aveugles et semi-voyantes de profiter du spectacle Burn Baby Burn de Côté Danse. Au Québec, près de 206 000 personnes vivent avec une forme de cécité totale ou partielle. Danse Danse considère qu'il est essentiel pour les organismes artistiques de rendre la culture accessible et les spectacles chorégraphiques ne font pas exception. Inspiré par l'image du feu, à la fois force créatrice et destructrice, le spectacle traverse des registres contrastés, de la joie insouciante et énergique à une intensité dramatique implacable. Face à l'urgence climatique, le chorégraphe allume un contre-feu mettant en scène une passion lucide et un élan de changement, porté par une partition originale du compositeur et musicien Amos Bentall, ancien danseur au Netherlands Dance Theatre. L'œuvre conjugue puissance rythmique et subtilité sonore, soulignant les contrastes entre les séquences de groupes endiablés et les duos ou solos plus intimes. L'expérience d'audio-description proposée est complète, comprenant des étapes avant, pendant et après le spectacle. Avant la représentation dès 18h, un atelier de présentation qui permet aux participants de se familiariser avec le dispositif d'audio-description est suivi d'une visite tactile des éléments de décor. Pendant le spectacle, l'audiodescriptrice décrit en direct la performance, transmettant la sensorialité de la danse par ses mots. Après le spectacle, une rencontre avec les artistes ajoute une dimension supplémentaire à cette expérience sociale et esthétique. Le coût du billet est de 20 $, taxes et frais de service inclus, et c'est gratuit pour l'accompagnateur ou l'accompagnatrice. On vous demande d'apporter un téléphone intelligent, une paire d'écouteurs et l'application Sennheiser, possibilité de prêt de téléphone intelligent. Vous pouvez appeler Maude au 514-525-3595 pour réserver ou avoir plus d'informations, 514-525-3595.
Vous pouvez rejoindre... Vous écoutez Au quotidien... avec Hélène Denis.
Et je vous invite à rester avec nous, puisqu'après la chanson des Beatles, All You Need Is Love, une chanson évoquée dans le roman Le Chant des Icebergs, on rencontre son auteur, Thomas Sabourin.
All you need is love.
Bien oui, c'est grâce au roman Le Chant des Icebergs de Thomas Sabourin là, qu'on écoute cette chanson dont on parle dans son roman. Il est avec moi, en face de moi, Thomas Sabourin, bonjour.
Bonjour.
Un roman tout nouveau, c'est votre deuxième en carrière.
C'est bien ça.
Et c'est publié cette fois aux éditions Au Carré, un livre maintenant disponible depuis le 28 octobre. Avez-vous fait un lancement officiel?
Oui, tout à fait. Il y a 2 semaines.
Ça s'est bien passé?
Ça s'est très bien passé.
Oui. Oui. Bien, bienvenue. Hein? Ça me fait plaisir. Moi, je suis toujours contente d'avoir les invités en studio en face de moi. Alors, comment vous présentez ce roman? Après l'envol du phénix, le chant des icebergs. Est-ce que vous dites iceberg ou iceberg?
Iceberg.
Iceberg. Comment vous le présentez?
En fait, c'est un roman de fiction, premièrement. C'est un drame familial qui est étalé sur plusieurs générations, qui est monté comme une intrigue.
Oui, oui. Alors, il y a du polar, il y a du suspense dans votre livre. Et je lisais dans les notes de l'auteur, qui est vous, Thomas Sabourin, vous dites que les personnages existent, mais qu'on est dans une fiction. C'est important pour vous de le préciser?
Oui, en fait, c'est une histoire presque vraie.
Presque.
Exactement.
Le presque est important.
Oui, parce qu'il n'y a jamais vraiment de... Même si on fait, si on écrit notre vie, c'est pas tout à fait vrai.
Non, c'est de la littérature
effectivement.
Aussi.
Ouais. Mais là, on est vraiment dans une fiction. C'est vraiment une histoire complètement inventée. Mais il faut dire qu'à la base, bon, moi, je suis urgentologue. Je travaille à l'hôpital. Je travaille avec des gens qui leur arrivent plein de choses. On est en contact avec plein d'histoires qui sont bizarres et qui sont que les gens n'entendent pas parce qu'ils ne nous les racontent qu'à nous. Et effectivement, il est arrivé un fait divers, il y a de ça une quinzaine d'années, qui est à la base de l'écriture de ce roman-là, en fait, de cette idée-là au départ. Et c'est un fait divers réel qui s'est vraiment passé, duquel j'ai pas été témoin directement, mais c'était dans mon hôpital avec des gens avec qui je travaillais. Ce principe-là de juste le... C'est un drame familial qui s'est passé. Mm-hmm. Et ce drame-là, c'est quelques mots, comme on entend une petite histoire de ce qui s'est passé d'un voisin, puis on dit « Ah, oh, mon Dieu, oh, oui, vraiment! » Bon, n'importe quel petit fait divers comme ça, on peut en avoir des centaines, des milliers par année, mais celui-là est resté dans ma tête pendant des années... Et j'ai travaillé sur ça, on parle là, des années 2000. Et après ça, je suis revenu à ça plusieurs fois jusqu'à ce que je décide de vraiment écrire l'histoire comme telle. Puis ça, on est en 2016 quand j'ai commencé à écrire ce roman-là.
Porter l'histoire depuis longtemps en
vous. Oui, exactement. En fait, parce qu'elle touchait plein de choses qui sont importantes pour moi.
Comme quoi?
Toutes les interrelations familiales entre les gens, et aussi le principe de qu'est-ce qui est caché derrière les mots que les gens disent, derrière les choses que les gens font.
Et les non-dits.
Exactement. Ouais. Alors, c'est ces choses-là, et aussi les tabous. Et ce sont comme les pièces maîtresses qui ont fait en sorte que c'est les choses qui m'intéressent le plus. Puis c'est pour ça que ce petit événement-là a déclenché ce roman-là, qui est un roman complètement de fiction. Là.
Mm-hmm.
Mais il y a vraiment des personnages qui ont vécu quelque chose qui existe dans la vie. Mais en fait, je pourrais même dire que des drames familiales, il y en a beaucoup. C'en est un.
Est-ce que votre précédent roman était aussi inspiré d'une histoire vraie que vous aviez entendue lors de votre travail d'urgentologue?
Non, mon premier roman était vraiment une histoire avec des personnages, d'interrelations entre des amis et tout ça. C'était autre chose complètement. Ouais. Ouais.
Mais il y avait quand même le passé.
Oui,
qui était...
toujours, oui. Oui. Oui, je dois avouer que dans ce roman-ci, vraiment, c'est
intergénérationnel. On fait des allers-retours.
Exactement. C'est intergénérationnel. Ça se passe sur plusieurs décennies, sur 3 générations, 1, 2, 3, même 4 générations.
Les années 60, les années 2010.
Oui, même les années 40
même avant,
un peu.
Oui, ouais, après la guerre.
Mais surtout les années 60 et les années récentes, en fait. Ça se passe... en 2015.
Et la narratrice, c'est le personnage principal. On pourrait dire que Claire, c'est le personnage principal,
le personnage pivot.
Est-ce que ça représente ou est-ce que ça a représenté un défi d'avoir à vous glisser dans la peau d'une femme pour ce rôle?
Oui, nécessairement. Effectivement, c'est tout un défi de prendre une femme comme personnage principal quand on est un homme. Et c'est aussi... Faut demander aux gens autour si est-ce qu'on...
Est-ce que c'est crédible?
Est-ce que c'est crédible? Oui. Parce qu'effectivement, je ne suis pas une femme.
Quand vous dites les gens autour, c'est votre maison d'édition?
Oui, mon éditrice, Lison Lescarbault, aux éditions Au Carré, évidemment, qui m'a aidé. Mais elle, je pense qu'elle a choisi mon roman au départ parce qu'elle a vu que je pense qu'elle a vu que je voyais assez juste dans les émotions d'une femme comme telle.
On
comme...
y croit, oui.
OK, bon, oui, ben, oui, j'aime oui, ça oui. Dans oui. Ça d'une femme. Et évidemment, il y a ma conjointe aussi. Oui. Il y a ma conjointe qui a été une des premières lectrices.
Ah oui,
à qui
vous...
est dédié ce roman-là?
Sophie.
Sophie
Tanton. Salue, qui oui, est peut-être évidemment. À l'écoute. Et vous faites donc des allers-retours, comme on le disait tantôt dans le temps. Est-ce que c'est une forme, vous, qui vous plaît en tant que lecteur, Thomas Sabourin?
Oui, ben ouais. j'aime la complexité des liens, comment on évoque le passé, comment le passé vient influencer le présent. Oui, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
Et le roman aborde la relation mère-fille, Jeanne-Claire, mais Claire-Émilie. Il y a toutes sortes de générations là, qui se rencontrent. Oui. Est-ce que vous pensez que chaque famille porte en elle ses propres icebergs? Iceberg,
oui, tout à fait.
Des fragments du passé figé, mais toujours présent.
Oui, je pense que personnellement, je suis persuadé, en fait, que la grande majorité des familles abrite des drames, abrite plein de choses qui sont tabous, dont on ne parle pas, et qui... Et c'est le thème de ce roman-là.
Oui. Et le titre est arrivé comment, dans votre esprit?
Complètement indépendant. En fait, entre le moment où cette histoire-là germait dans mon esprit et le moment où j'ai commencé à l'écrire, en quelque part, je suis tombé sur ça, sur que ça existait, des champs de iceberg.
Vous nous l'apprenez. En tout cas, moi, je l'ai appris
ça.
Grâce à vous.
Et je ne me souviens pas exactement, je ne sais pas si c'était à Découverte ou à une autre émission. Et tout de suite, ça m'a vraiment intéressé. Puis je me suis dit, mon Dieu! Des icebergs, vraiment,
oui,
des champs.
Chante.
Ça peut pas être associé les deux ensemble. Alors tout de suite, ça m'a accroché. Et après ça, évidemment, tout le roman est devenu une métaphore de ce titre-là. Et tout le roman est la métaphore qui va avec le titre. Mm-hmm.
Il y a des métaphores. Dans, oui. Parce que le rêve qui est important, l'eau, oui, la glace. Mais on va écouter le chant des icebergs pour ceux et celles qui en auraient jamais entendu parler. Ou vous allez voir, c'est beau.
Oui.
Chant de douleur, mais c'est vrai qu'on dirait, parce que vous le dites aussi dans le roman, vous l'écrivez, que c'est comparé à des baleines,
oui,
un chant de baleine.
Tout à fait, tout à fait. Et, ben, oui,
mais ça fait mal à entendre, je trouve.
Oui, oui. Et donc, à partir de ça, évidemment, tout le roman est construit à partir de cette histoire-là de base, mais aussi à partir des chants de l'iceberg aussi.
Et Thomas Sabourin, est-ce que vous diriez que la famille définit qui l'on devient?
Alors, je ne dirais pas qu'elle définit qui on devient, mais c'est sûr qu'elle influence énormément. Ça, c'est sûr.
Et les secrets de famille, parce que je ne sais pas si chaque famille a un secret ou des secrets, mais est-ce que tous les secrets de famille doivent être dévoilés, mis au grand jour?
Sûrement pas. Sûrement pas.
Celui mais... dont il est question dans
oui,
votre roman,
tout à fait.
Il est
oui,
assez dérangeant.
Oui, mais c'est sûr que certains secrets sont catastrophiques,
ouais,
pour l'interrelation entre les gens. Certains secrets amènent amène vraiment des catastrophes. Et c'est un petit peu... C'est un petit peu ça qui est raconté dans mon roman,
mm-hmm.
mais sans évidemment révéler l'histoire.
Non, il faut pas.
Mais est-ce que chaque secret, non. Malheureusement, malheureusement ou heureusement, les secrets font partie un petit peu de l'interrelation entre tout le monde. Et il y a des secrets, évidemment, qui parfois permettent d'avoir une interrelation entre les gens qui est plus fluide.
Ouais.
Alors que si on disait toujours ce qu'on pensait aux gens partout autour de nous, on ne serait pas une civilisation...
On érigerait peut-être d'autres murs.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Ce qui ne serait pas nécessairement mieux.
Mm-hmm.
Parce que c'est important d'avoir des interrelations aussi.
Mais pour le lecteur de votre roman, ben c'est satisfaisant de savoir... Au moins, on va au bout de la quête avec Claire et son amie Julie,
oui.
à partir d'une œuvre, d'une sculpture oui. qui sera remise par la mère, Jeanne, là, qui est alitée, qui est à l'hôpital.
Oui.
L'hôpital est présent aussi.
Oui, j'essaie pas trop. J'essaie de l'éviter, évidemment, compte tenu que c'est mon métier.
Et justement, vous le disiez tantôt, vous êtes urgentologue, mais vous êtes aussi professeur?
En fait, je suis urgentologue et hospitaliste, donc je vois les patients hospitalisés sur les étages et je suis professeur dans le contexte. Moi, j'ai été professeur avec des étudiants de première année à l'Université de Montréal en médecine pendant une douzaine d'années directement. Actuellement, mon professorat est surtout comme médecin urgentologue avec les externes et les résidents qui m'accompagnent à l'urgence.
Et est-ce que... j'imagine que oui. Là. Comment vous parvenez à concilier justement l'urgence du quotidien médical avec une sorte de rythme autre, de lenteur quand on écrit? Habituellement, on le fait pas de façon pressée.
Non, non, vraiment pas. Mais en fait, c'est un grand passe-temps pour moi que d'écrire. Et c'est-à-dire que c'est effectivement un moment extrêmement seul, écrire.
Vous écrivez quand?
J'écris...
À l'urgence?
Non, vraiment pas. Mais l'urgence fait en sorte que je travaille de nuit, je travaille de soir, je travaille de jour, je travaille les fins de semaine, une fin de semaine sur deux. Ce qui fait que j'ai souvent du temps la semaine, deux jours, alors que tout le monde... travail,
ouais.
Que mes enfants sont à l'école,
ouais.
que ma conjointe travaille et tout ça. Ce temps-là, évidemment, j'ai beaucoup utilisé ce temps-là à écrire.
Et la littérature est arrivée de quelle manière dans votre vie?
J'ai toujours été un grand lecteur.
Ouais.
Évidemment, dans ma famille, mon père, mon frère sont scénaristes et comédiens.
Ben oui, vous êtes le fils de Marcel Sabourin,
oui,
le frère de Gabriel Sabourin.
Effectivement, j'ai mon frère Jérôme qui est cinéaste et directeur photo aussi.
Oui.
Puis ben, il y a moi et mon petit frère qu'on a mal tourné, on est devenus médecins.
Les deux?
Ouais,
les deux petits derniers?
Oui, ouais. Les deux petits derniers. Okay. Alors, mais bon, j'essaie de me remettre dans le droit chemin. Puis... Donc...
Mais oui, c'est ça, c'est comme un clash, hein? D'être sorti un peu beaucoup même du milieu... artistique, malgré que vous y revenez par la littérature. C'est de l'art aussi, là.
La science et l'art, ce sont deux choses qui sont extrêmement proches. On dit un bac art et science, d'ailleurs.
Oui.
Et c'est pas pour rien, en fait, parce que les deux sont de creuser des sujets de façon profonde et de s'intéresser profondément à plein de choses.
Mm-hmm.
Et donc d'être érudit dans ce qu'on fait. Et être érudit en art, c'est la même chose pour moi que d'être érudit en science. Alors, pour moi, et même, je dirais que mon métier de médecin, d'urgentologue, m'aide à comprendre les interrelations entre les gens et donc m'aide à écrire aussi.
Donc, un sert l'autre et vice-versa.
Tout à fait.
Ouais. Et dans votre famille de base, là où vous êtes né, est-ce que votre père, votre mère, qui s'appelle Françoise, comme
oui,
ma mère d'ailleurs, est-ce qu'ils ont lu votre roman, votre plus récent roman?
Pas encore.
Pas encore.
Mais en fait, j'ai mon frère qui est Gabriel, qui est scénariste. Évidemment, avant de présenter aux éditeurs au départ, je lui avais fait lire. J'avais corrigé beaucoup de choses avec ses conseils. Sinon, mon père m'a aidé beaucoup au début de l'écriture. En fait, m'a aidé antérieurement parce que, bon, Mon histoire d'écriture est un petit peu complexe parce que j'ai écrit des choses que je n'ai pas publiées aussi parce que mon premier roman, c'était il y a 15 ans. Et entre ce roman-ci, qui a quand même pris 9 ans, et mon autre roman, j'ai écrit deux autres choses que je n'ai pas publiées. Un suspense et un livre d'histoire du Québec. Mais bon...
Ça viendra peut-être un jour?
Non, j'ai abandonné, mais c'est trop complexe.
Ouais.
Et, mais j'ai beaucoup travaillé avec mon père, surtout sur cette histoire-là de suspense. Et après ça, j'ai un peu travaillé avec mon père sur ce roman-ci également au niveau de comment développer une histoire, comment développer une structure.
Mm-hmm.
Et donc,
vous êtes entouré de bons conseillers,
conseillères
également. Et vous parlez de votre frère scénariste qui est aussi comédien.
Oui.
Est-ce que vous avez parlé avec lui d'un film tiré de ce roman-là?
Ah non.
Parce que ça pourrait être aussi porté à l'écran, je crois.
Ah, ben, je dirais pas non.
Mais
j'ai jamais discuté de ça avec mon frère.
Mais il faut lire Le Chant des Icebergs. Comment vous le qualifiez, ce roman-là, dans votre histoire, votre parcours d'écrivain?
Ah, ben, en fait. C'est vraiment un drame familial avec une intrigue.
Mm-hmm.
Donc,
mais êtes-vous fier de ce que vous offrez?
Oui. Je pense que je dois remercier d'ailleurs Lison Lescarbault, qui est mon éditrice à Édition Carré, qui a travaillé avec moi de façon très intense depuis 3 ans à peaufiner ce roman-là pour qu'il soit à notre goût, à moi, et à son goût à elle aussi.
Et on espère que le public va suivre.
Oui.
Qu'est-ce que vous aimeriez que le public en pense, en dise, en ressente? Mais maintenant, ce n'est plus votre... ça ne vous appartient plus, mais c'était quoi l'idée derrière, l'objectif de cette création-là?
Bien, en fait, comme n'importe quelle forme d'art, c'est de toucher les gens. Et c'est vraiment ça qui est à la base de l'écriture, c'est à la base de toute la création. On veut toucher les gens, on veut aller chercher des émotions chez les gens, faire vivre des émotions. Et c'est vraiment ça qu'il y a dans ce roman-là. J'espère avoir vraiment réussi.
Bien, on invite les gens à découvrir ce nouveau roman de Thomas Sabourin qui s'intitule, je le rappelle, Le Chant des Icebergs et c'est publié aux éditions Au Carré. Merci beaucoup. Allez-vous aller faire un tour au Salon du Livre cette année?
Oui, certainement. Je vais être là plusieurs journées, surtout mercredi, jeudi soir et probablement dimanche toute la journée aux éditions Au Carré. Au Salon du Livre de Montréal.
On invite les auditeurs et auditrices à aller vous rencontrer pour jaser, puis signer peut-être, dédicacer ce roman-là. Merci Thomas Sabourin.
Merci Madame Denis.
L'as-tu échappé? C'est long, voudrais laisser tout ce qu'on aurait pu être. Creux dans un banc de neige jusqu'au printemps et rentrer légère.
Restons dans la littérature, puisqu'on a annoncé le récipiendaire du prix Goncourt. Il s'appelle Laurent Mauvigné. Il a 58 ans. Il a obtenu aujourd'hui le prix Goncourt pour La Maison vide aux éditions de Minuit, une vaste fresque familiale de 750 pages présentée comme un roman fondamental par le jury du plus prestigieux prix littéraire français. Je ressens de la joie. C'est une récompense énorme parce que c'est un livre qui vient de l'enfance et de plusieurs générations. A réagi donc l'auteur à son arrivée chez Drouhan, célèbre restaurant proche de l'Opéra à Paris, où l'attendaient les 10 jurés de l'Académie Goncourt. Sacré dès le premier tour avec 6 voix, Laurent Mauvigné a devancé la Belge Caroline Lamarche, qui en a obtenu 4 pour Le Bel Obscur, et distancer les 2 autres romanciers en lice dans la section finale, Emmanuel Carrère avec Kolkhoz et Natacha Apana avec La nuit au cœur. Concernant Natacha Apana, elle a remporté le prix Fémina, l'une des grandes récompenses littéraires en France, qui a été décernée lundi à la romancière née à l'île Maurice pour son roman La nuit au cœur, qui lie le destin de 3 femmes prises dans la spirale des violences masculines. Le prix Fémina a été remis la veille des prix Goncourt et Renaudot et 2 jours avant le Médicis, 3 autres récompenses littéraires majeures en France. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été présent. Je vous espère demain à compter de 9h30. Merci Mathieu Tessier. À demain.